Et on est ensemble dans cette série de messages qui s'intitule « Processus ». Et ce que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous cet après-midi, le titre du message, c'est « Grandir prend du temps ». Simple. Et je prie que Dieu puisse vous encourager puissamment au travers de sa parole. Je crois que l'Église est le lieu où tu dois ressortir le plus encouragé. La semaine, il y a plein de choses qui peuvent te décourager. Mais l'Église doit être l'endroit où on ressort, on est encouragé. La parole de Dieu m'encourage tous les jours. Ce que disait Gérard tout à l'heure, je peux dire à mon âme, bénis l'Éternel, non pas parce que la vie est belle, mais parce que mon Dieu est bon. Et ça, ça change tout. Et je veux vraiment vous encourager, je prie que le Saint-Esprit, cet après-midi, vous dépose dans vos cœurs peut-être juste un verset, deux, trois choses qu'on va partager et que vous ressortiez en disant, j'aime Jésus, Dieu est bon avec moi. Dieu est bon avec moi. Grandir, ça prend du temps. Dis à la personne à côté de toi, grandir, ça prend du temps. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, même petit, je voulais être grand. Et je me souviens, j'avais 4-5 ans, je disais à mon père, je vais grandir, je veux être grand. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas le droit de faire. Non ? Amen. Quand on est petit, on te dit toujours non. On te dit tellement non que le premier mot que tu dis toi-même, c'est non. Non ? Amen. C'est vrai ? Donc on a envie de faire plein de choses et on est limité. Je disais, je veux grandir. Moi, j'ai toujours eu cette sensation, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais que les premières années de ma vie, le temps était lent. Quand tu es petit, le temps est lent. Et d'un coup, le temps accélère. Et plus tu vieillis, moins tu vois les semaines, non ? Ou il n'y a que moi, on est deux, trois comme ça. Non, ça va, il y en a qui disent non, oui, 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 oui. Mais oui, moi, j'avais tellement l'impression que c'était lent. Et je me rappelle, chaque rentrée d'école, je me disais, oh punaise, une année à tenir. Et c'était long. Et après, tu passes une année, et oh, c'est long. Et le temps était long. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, pourquoi c'était long, en fait, c'est parce que j'ai passé une saison de ma vie à lutter contre le temps. Au lieu de le célébrer, au lieu de l'accueillir dans ma vie. Ça sert à rien de se plaindre que quelque chose est long, autant la vivre. Ça nous fait gagner du temps, justement. Et je prie pour nous cet après-midi qu'on comprenne que notre Dieu, Dieu est hors du temps et il nous a placés dans le temps. Et dans ce temps-là dans lequel nous sommes, nous devons apprendre à grandir. Dieu veut que tu grandisses. Tu es appelé à grandir. L'apôtre Paul nous dit qu'on n'est pas appelé à rester des enfants, mais on doit devenir des hommes, des femmes matures, devenir fort, devenir capable. Mais il y a une chose que j'arrive pas, que je n'ai jamais trouvé la solution, c'est comment devient-on mature sans grandir ? La maturité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste de la connaissance. Tu peux connaître une chose, mais tu n'es pas mature. Vous savez, quand tu as 15 ans, 20 ans, tu sais beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas en fait. Moi je sais, elle n'est pas là, je peux le dire. Moi j'ai une fille qui a 16 ans, elle sait tout sur tout. Elle est dans cette période de la vie où tu sais tout sur tout. Mais en vrai, elle ne le sait pas, je vous le dis à vous. Mais elle ne sait rien. Et les copines là, qui lui envoient les textos pendant que je parle, ton père est en train de dire ça. Tu crois que tu sais, mais c'est bizarre la maturité. La maturité, qu'est-ce que c'est ? C'est une rencontre entre toi qui grandis, qui vieillis, entre tes expériences, entre tes échecs, tes réussites, ce que les autres t'ont communiqué, qui font qu'un jour, ben, tu sais que t'as compris. Ça y est, j'ai compris le truc. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre plein de choses et je suis encore en processus dans plein de choses. Mais je me dis, et Dieu veut que je sois mature, alors je dois apprendre à jongler avec ce temps, avec ce processus de croissance dans ma vie. La pire des choses pour un croyant, c'est de ne pas grandir. Et on va en parler ensemble. Mais il y a un texte qui nous parle du temps, qui nous parle de l'harmonie de la vie, des saisons qui passent et qui avancent. Ce texte, on le connaît, vous le connaissez peut-être. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Je vais lire pour vous dans Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 11. On a même le texte. Il est dit ceci, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, vous êtes passé par ce temps-là. Un temps pour mourir, ça arrivera. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, ça je suis moins fort sur celui-là moi. Un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation de semer les fils de l'homme. Verset 11, il fait toute chose bonne en son temps. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce verset ? Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si tu veux que ta vie soit belle, alors apprends à marcher dans le temps de Dieu. Apprends à marcher dans le mouvement de Dieu. Le problème qu'on a, et on va en parler ensemble, c'est que souvent, nous sommes en avance sur le temps de Dieu, ou nous sommes en retrait du temps de Dieu, ou parfois on a l'impression que Dieu a tellement d'exigences sur notre vie que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Je veux vous le dire, et j'espère que vous allez le recevoir, mais vous êtes trop souvent plus dur avec vous-même que ce que Dieu ne l'est avec vous. Parce que quand mon fils avait 7 mois, ça ne m'est jamais arrivé de lui dire « Pourquoi tu marches pas ?» Non ? Il a 7 mois. Et lui-même, dans sa tête de bébé, il ne s'est pas dit « Oh purée, quel pauvre gars je suis, je ne marche pas !» Alors voici la puissante parole que j'ai pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas marcher qu'un jour tu n'y arriveras pas. Simple, on va voir ensemble le détail du message maintenant. Je crois que Dieu veut nous apprendre à marcher avec le temps. Il y a souvent un conflit entre les chrétiens et le temps. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai une piste de réflexion. Je crois qu'à cause du miraculeux, à cause du fait que Dieu est capable de faire des choses rapides, même voire instantanées, on s'est mis à croire que la vie, c'était de l'instantané et on a voulu sortir le temps. Il y a une sorte de conflit chez les chrétiens. Est-ce que vous savez que la majorité des miracles de Christ dans le Nouveau Testament sont des miracles qui se font dans le temps ? Les miracles instantanés comme ça, il y en a très très peu. Le mot qui est utilisé pour 90% des miracles dans vos Bibles, c'est le mot thérapeo, qui signifie qu'il y a une œuvre qui a été libérée et le processus de vie a commencé et ça s'est libéré dans le temps. Par exemple, Jésus a dit à un groupe de lépreux d'aller se laver dans un réservoir et c'est en allant dans le réservoir qu'il a été guéri. Nous, on aime les moments où Jésus te touche et tac, t'es guéri. Moi, je les aime, ces moments-là. Mais la vérité, c'est que souvent, c'est un processus. Parce que Dieu veut non pas simplement que tu sois guéri, mais il veut que tu apprennes quelque chose dans ta guérison. Il veut que tu sortes de là en le connaissant mieux, lui, en étant plus fort, plus solide. On ne passe pas de 0% de foi à 100% de foi. Ça n'existe pas. Le monsieur, la madame qui est capable d'avoir une foi solide, forte, c'est quelqu'un qui a travaillé sa foi par une petite étape, un petit défi, un plus grand défi. Vous allez voir, là vous n'êtes pas sûr. Vous dites, comment ça ? Non, je reçois comme ça le Saint-Esprit et je suis une femme de Dieu juste après une prière. Ce n'est pas vrai. Tu ne deviens pas comme ça un homme de Dieu. Tu le deviens dans le temps, dans le processus de la marche avec Dieu. Je crois que quand je pense à l'instantané, quand je crois que la vie chrétienne, c'est que des moments d'instantané, je m'affaiblis parce que Dieu ne me donne pas que de l'instantané, alors je suis déçu de lui. Ce n'est pas comme ça. Dieu t'a mis dans un véhicule, Dieu t'a mis dans un endroit, ça s'appelle la vie. Et il te dit « vie ». Et parfois, tu vis, il y en a certains qui ne vivent pas longtemps. L'apôtre Jacques, dans la parole de Dieu, n'a pas vécu longtemps. Et il y en a qui ont vécu très longtemps. Jean, lui, il dit l'ancien, tellement il est vieux, on ne compte même plus les jours. Qu'importe, en fait. Mais tu dois apprendre à vivre la vie, ça c'est bien ça. Dis à la personne à côté de toi, tu es vivant pour vivre. Il y a trop de morts à l'église. Frères et sœurs, on est ressuscité en Christ pour être vivant. J'avais un professeur à l'école biblique qui nous disait une chose qui m'a toujours marqué. Il nous disait, c'est terrible de louper sa vie, mais le plus terrible, c'est de louper sa nouvelle vie. Parce que quand tu es sauvé, tu dois vivre. Tu es plus vivant qu'un autre. Il y a une vie que Dieu a déversée en toi. Alors comment apprendre à grandir dans cette vie? Et moi j'ai mis dans mes notes, comment marcher dans la croissance joyeuse avec Dieu? Dis à la personne à côté de toi, joyeuse. Joyeuse avec Dieu. C'est une bonne nouvelle. Tu es chrétien. C'est une bonne nouvelle d'aller à l'église. C'est une bonne nouvelle d'ouvrir sa Bible. C'est une bonne nouvelle d'aller à la prière. Ce n'est pas le pèlerinage terrestre. C'est une bonne nouvelle. Comment vivre une croissance joyeuse avec Dieu? Je le reconnais, je le confesse. Quand je préparais ce message, je disais au Seigneur, mais Seigneur, combien de fois j'ai grandi, mais ce n'était pas joyeux. J'ai grandi, mais ce n'était pas du tout joyeux. Alors que Dieu veut m'apprendre à vivre une croissance joyeuse avec lui. Quand ton petit garçon ou ta petite fille fait ses premiers pas, qu'est-ce que tu fais? Tu filmes comme un imbécile parce que tu te dis c'est exceptionnel. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, tous les enfants le font. Mais toi tu dis c'est exceptionnel. Je veux te dire une chose, quand ton père qui est dans les cieux te voit alors que tu étais par terre te mettre à marcher, il prend aussi une vidéo de toi et il dit c'est exceptionnel. Ça c'est mon Dieu, parce que la parole de Dieu déclare, méchant comme tu l'es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Combien plus forte raison ton père qui est bon te donnera des bonnes choses à toi. Seigneur, la croissance joyeuse. Je peux vivre une vie chrétienne où ça va en fait. Amen. Alors la première chose, ne te fixe pas d'objectifs impossibles. La majorité des questions que je reçois, vous savez, je reçois plein de mails tous les jours. Si je devais ressortir le thème majeur qui ressort, les gens me demandent toujours la même question. C'est « Pasteur, j'arrive pas à prier. » Il y en a qui baissent la tête là quand j'ai dit ça. C'est dur la prière. Les disciples, ils étaient avec Jésus et ils disent « Comment est-ce qu'on fait pour prier ?» Donc c'est pas une mauvaise question, c'était difficile même pour eux qui étaient physiquement avec Jésus. Mais les gens me demandent ça, et souvent quand je parle, que je pose des questions, eh bien vous savez ce qui est le premier frein à la prière, c'est qu'on s'impose des durées de prière. Et les gens disent, ah mais moi je veux prier une heure, j'y arrive pas, et ils sont découragés, alors qu'il vaut mieux prier 10 minutes et être encouragé que prier une heure que tu n'y arrives pas, et t'as prié, tu repars, l'ennemi n'a même pas besoin de t'attaquer, tu t'es découragé tout seul. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Oui, oui, il y en a qui disent, oui, moi. Dis à la personne à côté de toi, moi aussi, je suis un humain. Nous, on croit toujours que... Je vais vous lire un des versets les plus puissants du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que ça, c'est un secret que Dieu a mis dans sa parole pour toi, pour moi. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Pour moi, ici, on a un des versets, si on le comprend, qui est le plus puissant de la parole de Dieu. C'est littéralement la manière dont Dieu fixe sa balance. Dieu est juste, d'accord? Vous savez que Dieu est juste. Mais la justice de Dieu, nous, dans nos textes, c'est synonyme de punition. Alors que la justice de Dieu, ça veut dire que Dieu est juste avec toi. Il ne te traite pas plus dur que ce que tu devrais être traité. Dieu est vraiment bon pour toi. Il n'est pas flatteur ni trop dur, il est juste avec toi. Et ce verset nous montre la balance de Dieu. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'on peut avoir à sa disposition et non de ce qu'on n'a pas. Est-ce que tu sais qu'il y avait des saisons dans ta vie où tu n'avais pas? Où tu n'as pas la force. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un déjà de ne pas avoir la force de prier? Plus vers le fond. Devant, là, c'est les spirituels, eux, ils sont forts tout le temps. Mais vous savez, moi, j'étais chrétien depuis quelques semaines et j'ai vécu la plus puissante expérience spirituelle d'un nouveau converti. J'aime Jésus, je lui ai donné ma vie et j'attrape la grippe. Et j'ai 42 fièvres. Combien savent que quand tu as 42 fièvres avec la grippe, tu as un peu de mal à prier? Et quand tu lis ta Bible, les versets, tu les vois en double. Et vous savez quoi? J'étais culpabilisé. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Juste une petite grippe qui me met KO, pauvre de moi. Je suis indigne de la croix. N'importe quoi, quoi. La bonne volonté, quand elle existe, il faut qu'elle existe. La bonne volonté, c'est toi. Mais elle est fonction de ce qu'on a. Pas de ce qu'on n'a pas. Un enfant qui ne sait pas marcher, Il n'est pas coupable de ne pas savoir marcher. Il ne sait pas le faire. Un chrétien qui n'a jamais prié une heure, il aura du mal à prier une heure s'il ne passe pas par des étapes intermédiaires. Je vous donne des choses très simples cet après-midi. Des fois, il y a des gens qui me disent « je n'arrive pas à lire ma Bible ». Et je discute avec eux. Est-ce que vous savez que les jeunes, moi-même je suis de cette génération-là, on ne lit plus. Vous savez ça ? Est-ce que vous savez que moi, quand je regarde mes enfants, on leur impose des livres à l'école, mais ils ne lisent pas sinon. Alors là, un jour, on te donne un livre qui s'appelle la Bible. Vous savez, je suis transparent avec vous cet après-midi. Moi, le jour où on m'a mis une Bible entre les mains, moi, j'avais donné ma vie à Jésus dans ma chambre. Puis là, on me dit, ben maintenant, voici le manuel du chrétien. J'avais jamais vu un livre aussi épais, avec des pages aussi fines. Mais ça vous parle, ça ? Et tu lis, t'es là, t'as du mal, un chapitre, c'est dur, je comprends pas. En plus, moi, j'avais une vieille traduction biblique avec plein de mots que je savais même pas ce que ça voulait dire. Et des fois, je dis, Seigneur, je te demande pardon, j'arrive pas à lire. Et vous savez quoi ? Je suis convaincu aujourd'hui que Dieu me regarde et dit, mais qu'est-ce que tu demandes pardon de quoi ? T'as du mal à lire aujourd'hui. Demain, tu vas lire un verset de plus. Dans 10 ans, tu seras meilleur. Faut apprendre à marcher avec le temps de Dieu. Dieu n'est pas derrière nous avec un taser, là, un pistolet taser, et dès que tu n'avances pas vite, le matin, tu ne pries pas assez, ta Bible. C'est faux, ça. Je le dis en plaisantant, mais beaucoup sont dans la culpabilité. C'est un piège diabolique. Je fais des choses pour Dieu et je n'en retire de la culpabilité. T'imagines ça ? Je ne prie pas assez, je ne lis pas assez. Combien de fois, allez, je vais dans les exemples simples. Combien de fois tu t'es dit « je vais jeûner » Je vais jeûner, Seigneur. Juste le moment où tu te le dis, t'as faim. C'est énorme. Bon, il n'y a pas que moi. Merci, Seigneur. Et là, tu te dis « Seigneur, pardon, misérable. Le sac et la cendre, comme dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que tu ne marches pas dans la grâce. Tu marches dans les œuvres. » Dieu, quand il voit que tu dis « je vais jeûner », le Seigneur est honoré déjà que tu y penses. Après, peut-être tu n'arrives pas aujourd'hui, mais tu arriveras demain. Moi, il y a des gens qui me disent « oh, je me lance dans un jeûne de 10 jours. » Le gars n'a jamais loupé un repas. Mais je ne suis pas la voix de l'ennemi dans ta vie, mon frère, mais tu risques d'avoir du mal. Parce que la vie, c'est du temps. Le temps, c'est d'apprendre à marcher avec le temps que Dieu te donne dans ta saison. Je parle d'exemples simples. Nous ne sommes pas appelés à rester des nouveau-nés, c'est une vérité. Mais je crois que Dieu est avec nous dans la croissance. Il n'est pas contre nous dans la croissance. La Bible dit même dans Hébreu qu'il y a une nuée de témoins dans le ciel qui nous regardent et qui nous encouragent à continuer, à persévérer, à avancer. Ce n'est pas pour te décourager dans ce que tu n'arrives pas. Quand tu n'arrives pas, ton Père est là avec toi et te dit « on va refaire un essai, je vais t'amener un peu plus loin. T'as loupé, mais on va continuer à avancer. Peut-être que tu n'es simplement pas prêt. » Paul n'était pas toujours prêt. On va parler de la vie de l'apôtre Paul, frères et sœurs. Je veux vous en parler. Est-ce que combien croient que c'était un homme de Dieu ?
Amen.
C'est un homme de Dieu, l'apôtre Paul, quand même. S'il ne t'impressionne pas, là, c'est que vraiment, tu es arrivé au summum de la gloire. Tu es peut-être même déjà au ciel, mais Paul, c'est quand même un homme qui est très, qui m'a toujours interpellé. Je veux lire juste quelques pensées et vous libérer totalement. Premièrement, Paul n'est pas devenu Paul parce qu'on lui a imposé les mains. C'était pas, oh, je suis un gars à l'église. Un pasteur arrive et dit, au nom de Jésus, ça y est, c'est l'apôtre Paul. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Paul n'est pas devenu Paul simplement parce qu'il a fait un jeûne prolongé. Paul est devenu Paul dans une marche quotidienne avec Dieu. Il a dû apprendre. Et en fait, j'ai pris plein de passages et je vais. Parce que des fois, on lit nos Bibles et on ne réalise pas. Mais les actes des apôtres, premièrement, ce sont 14 ans de vie qui se sont écoulés dans les actes des apôtres. C'est pas juste tout s'est pas passé en 6 jours hein, dans les actes. C'est 14 ans qui sont résumés. Ok, maintenant regarde l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il a reçu du Seigneur dans cette rencontre sur le chemin de Damas. Si on peut afficher acte 9, s'il te plaît. Il a cette rencontre avec Jésus. Et le jour où il rencontre Jésus, regardez ce qu'il reçoit. Cet homme est un, ça c'est ce que Dieu dit à Ananias. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Quand tu commences ta vie chrétienne avec un appel comme ça, tu dis oulala, on va tout casser. Je suis, et tu arrives à la réunion de prière, je suis un instrument choisi par Dieu pour aller devant les rois, excusez du peu, devant les rois, devant les chefs, devant. Ça, c'est l'appel de l'apôtre Paul. Voici l'appel. Et beaucoup d'entre nous, Dieu nous a donné une parole, on a une promesse, on a un appel que Dieu nous a donné. Mais le jour où tu as l'appel, Dieu dit, on va commencer à faire de toi cet homme que je t'ai montré. Or, nous, on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui prie pour nous, on le devient. Je disais, moi, quand j'étais petit, je veux grandir. Eh bien, je n'ai pas grandi plus vite que les autres. Tu ne peux pas aller plus vite. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Ça, c'est acte 9. Un peu plus tard, la Bible dit que, alors que Paul a été sauvé, la première des choses qui se passe, il va se retrouver éloigné pendant toute une saison de sa vie. On voit dans Galates 1, verset 17, c'est Paul qui parle, il décrit sa vie et il va dire « Je ne me suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. » En fait, Paul est parti en Arabie et il est resté à Tarse. Est-ce que vous savez pendant combien de temps il est resté là-bas ? 3 ans en Arabie. 3 ans où on ne sait rien. 3 ans où il ne se passe rien. Vous savez, ça, c'est les saisons de nos vies où il ne se passe rien. Est-ce que vous avez ça aussi, vous ? Les saisons de la vie où c'est la routine. C'est normal. Il n'y a pas de la gloire de la montagne qui s'illumine. Non, elle ne s'illumine pas. J'ai mon époux, mon épouse, mes enfants, mon travail. C'est la routine de la vie. Et cette étape-là, on y passe tous. Et on va en parler dans un instant où ça... Pourquoi Dieu nous fait passer par là ? Mais c'est une saison de routine, c'est une saison de normal, c'est une saison... C'est comme ça. C'est des saisons même où tu te dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Si vous ne l'avez pas fait, cette prière, elle viendra. Jusqu'à quand, Seigneur ? Et Paul, plus tard, un peu plus tard, il est dit ceci. Il est dit... que je vous lis Galates 2, justement, versets 7 à 9. « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été... » Acte 11, 25. Un peu plus tard, c'est Barnabas qui part à Antioche chercher Paul. C'est Barnabas. Ce n'est pas un apôtre qui allait le chercher. C'est un inconnu. Lui, quand il voit arriver Barnabas, il ne le connaît pas. C'est un gars qui arrive, qui était parti dans une église un peu... Vous savez, Antioche, c'est une église un peu bizarre quand même. Parce que pour les juifs qui faisaient des églises de juifs, là, Antioche, c'est un... Il n'y a pas de leader principal, c'est une équipe de ministère. Et puis dedans, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, il y a de tout. C'est impensable à l'époque, vraiment. Et là, c'est cette église un peu bizarre qui l'appelle. Peut-être, vous savez, certainement, c'est un homme, il aurait aimé peut-être être dans la grande église de Jérusalem. Si tu veux servir Dieu, là, tu vas dans la grande église de Jérusalem. Et il va aller à Antioche, et pendant plusieurs années, il va rester là, et il va servir sous le leadership de Barnabas. Il est juste un leader parmi d'autres, et il sert un leader plus grand que lui. Et ça dure toute une saison de sa vie, un peu plus loin. Il est dit que il va monter à Jérusalem 14 ans après la première rencontre qu'il a eue avec Pierre. Il va enfin rencontrer vraiment les apôtres. Ça met du temps quand même, hein. Des fois, nous, on n'a pas le rendez-vous dans la semaine avec le pasteur. C'est une épreuve. Lui, il a attendu 14 ans. Vous êtes là ? Dis à la personne à côté de toi, ça va aller. Il a bientôt fini. Regardez ce que Paul dit, Galates 2, verset 7. « Au contraire, voyant que l'Évangile m'a été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et ayant connu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association. » 14 ans après, enfin on reconnaît ce que je fais. 14 ans. Et après, qu'est-ce qui va se passer après ça ? Je vais plus vite, mais Paul part en voyage missionnaire. Premier voyage missionnaire. Et il va en faire même un deuxième, un troisième. Pour certains, entre 3 ou 4, ça dépend comment on compte. Mais en tout cas, si on considère qu'il a fait 4 voyages missionnaires, quand tu regardes la carte, le cercle est de plus en plus grand. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paul, il était comme toi et moi. Il a commencé sa vie chrétienne en apprenant les bases. Il priait pas 100 heures par jour. Il lisait pas 3 fois la Bible par semaine. Il a commencé quelque part et ça a duré toute une saison où il a été tout seul avec sa Bible, un chrétien qui apprend. Et puis d'un coup, il sent, oui, Dieu a ouvert une porte, il a commencé à servir. Et là, on a vu que Dieu lui avait confié quelque chose se passe. Et puis plus tard, les apôtres disent, ah, il y a quelque chose sur ta vie. Puis là, il est même associé aux apôtres. On voit qu'il y a un appel solide de Dieu sur sa vie. Puis là, Dieu lui dit, vas-y, commence à faire tes voyages missionnaires. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il en fait un petit pour commencer. Puis là, il se dit, c'est bon, j'ai réussi. Il en fait un plus grand, et encore un plus grand, et le dernier, il est énorme. Il finit en Italie. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est que grandir, ça prend du temps. Paul n'est pas devenu Paul comme ça. Il a avancé avec Dieu petit à petit. Pourtant, son appel, vous vous rappelez de son appel au début? C'est un instrument de Dieu pour parler devant les rois. Je vais être très franc avec vous. Parfois, on a une promesse, on a quelque chose que Dieu nous a donné et on est béni de la promesse, mais entre la promesse et la réalité de ma vie, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, la différence entre la promesse de Dieu et toi, ce que tu vois de ta propre vie, c'est dans cet écart que la déception vient se cacher. Mais nous, nous jugeons notre vie toujours à l'heure maintenant. On ne voit pas ce qu'on va devenir demain. Dieu n'était pas derrière Paul à lui dire « Tu ne fais pas de voyage missionnaire alors que tu es le grand apôtre appelé à aller devant les nations pendant 14 ans, tu ne le fais pas ?» Parce qu'il n'était pas prêt. Dieu marche à ton rythme, les amis. Si Dieu ne marchait pas à notre rythme, ce serait impossible de marcher au sien. Je vais répéter ça. Si Dieu ne marchait pas à notre rythme, ce serait impossible de marcher au sien. Parce que lui, il est saint, toi, tu ne l'es pas. Lui, il est 100% inspiré, il est le oui et le amen. Excuse-moi de te le dire, mais toi, tu n'es pas 100% inspiré. Lui ne fait jamais d'erreur. Jamais. Même les saisons difficiles ne sont pas une erreur. Mais nous, nous faisons des erreurs qui ouvrent des saisons difficiles, non? C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas de marcher à sa vitesse. Il nous demande d'apprendre à marcher à lui qui s'adapte à notre pas. Mais oui, bien sûr que des fois le Seigneur dit « Bon, allez, on avance un peu. » Oui, mais ce n'est pas une sanction qui te tombe sur la vie et c'est fini. Paul est devenu ce qu'il est devenu en 14 ans, plus de 14 ans. Et je me dis « Seigneur, il y a encore de l'espoir pour moi. » Dis à la personne à côté de toi, « Il y a encore de l'espoir pour toi. » Premièrement, donc, ne te fixe pas des objectifs impossibles. Regarde où tu en es aujourd'hui et apprends à occuper l'espace que tu peux occuper aujourd'hui. Deuxièmement, avant de combattre les géants, apprends à combattre le lion et l'ours. Je rencontre trop de gens qui veulent abattre trop de géants. Avant d'attaquer les géants. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi nous, on veut toujours abattre des géants. Ce n'est pas super, une super nouvelle hein, quand tu dois abattre un géant. Je préfère, moi, abattre un petit de 1m20. Non ? Quand, des fois, mon fils, il me dit, maintenant, je deviens grand, il veut faire la bagarre. Et j'ai dit, attends, mais il n'est pas prêt encore. Il croit, mais il n'est pas prêt. Apprends à combattre le lion et l'ours, tu vaincras les géants. Vous savez de quoi je veux faire référence? Je parle de David qui est devant Saül, qui est à ce moment-là où il va partir justement se battre contre Goliath. Et regardez ce qu'il est dit là. David dit à Saül, 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait l'enlever, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Mais je vais vous dire une chose, la référence dans le cœur de David, il n'était pas, David ne s'est pas dit, ça y est, j'ai reçu, je vais abattre le géant. Ce qui a fait que David savait qu'il était capable de l'abattre, c'est qu'il avait expérimenté la victoire contre le lion et contre l'ours. Tu n'abats pas un géant si tu n'abats pas un lion. Tu n'abats pas des forteresses spirituelles si déjà tu n'as pas commencé quelque part. Je disais simplement, tu ne jeûnes pas 40 jours si tu n'as pas commencé une journée. En fait, c'est des processus normaux. Parfois, nous, on est là, dit « Oh Seigneur, j'arrive pas à abattre les géants. » Mais Dieu dit « Je t'ai jamais demandé d'abattre un géant. » Apprends à battre le lion et l'ours. Vous savez ce que c'est le lion et l'ours ? Le lion et l'ours, David, lorsqu'il faisait paître le troupeau, c'était les intrus quotidiens. C'est les combats quotidiens. C'est la routine de la vie. Est-ce que vous avez une routine de la vie ? La vie, c'est que des routines. Et il y a ces moments-là où Dieu nous attend à voir ses victoires dans notre quotidien, dans la routine de la vie. Ne méprise pas les petits combats, parce que c'est les petits combats qui te préparent à avoir les grandes victoires. En fait, je vais même le dire différemment, Dieu veut te préparer à avoir de grandes victoires. Dieu a des grandes victoires pour toi. Vous n'êtes pas convaincu. Dis à la personne à côté de toi, Dieu a des grandes victoires pour toi. Dieu a des grandes victoires pour toi, mais Dieu n'est pas un fou. Les amis, Dieu a des grandes victoires pour toi, mais Dieu n'est pas un fou. Dieu veut te permettre de les vivre. Encore une fois, moi j'aime quand il y a un moment spontané, boum, il y avait un géant, Dieu l'a terrassé. Amen. Il y a un Jéricho, on en a parlé ensemble il n'y a pas longtemps. Il y a un Jéricho, j'ai rien à faire, je tourne. Mais j'aime, moi, ces victoires-là. Mais la vérité est que Jéricho, il n'y en a qu'une dans ta Bible de ville comme ça. Les autres, il faut combattre. Et c'est dans le combat que Dieu intervient. Mais donc, Dieu veut nous apprendre. C'est dans le quotidien. Les vrais défis, je vais vous le dire, les vrais défis, c'est le quotidien. C'est facile de faire un exploit. Je vais être très cash. C'est facile de dire, je lis le Nouveau Testament en un mois. Ce qui est dur, c'est de lire un chapitre tous les jours pendant 25 ans. Ça, c'est dur. Prier un coup 3 heures. Tu t'envoies. Mais prier tous les jours une heure, ça, c'est un défi. C'est là, c'est le quotidien, c'est ces choses répétitives. C'est facile. Les héros d'une heure, il y en a plein. Les héros. Mais David, lui, c'est pas un hasard s'il est là. C'est parce qu'il était déjà prêt. Dans son quotidien, quand un lion venait, il combattait. Un ours venait, il combattait. Dieu lui a donné des muscles pour combattre. Un jour, un géant arrive, il dit, il a insulté l'Éternel, et ce n'est pas en mon nom que je viens, mais c'est au nom de l'Éternel, les amis. Oui, il dit ça, mais aussi, il est prêt. Dieu l'a préparé. L'apôtre Paul a un verset pour vous, frères et sœurs. Exercez-vous à la piété. Le mot exercer, dommage qu'il n'y ait pas Fabien qui est là, parce qu'il nous aurait fait une petite démonstration de musculation. Mais c'est quoi s'exercer ? Le mot exercer qu'il y a dans vos Bibles, quand Paul dit « exercez-vous à la piété », c'est un mot d'haltérophilie. C'est un mot d'haltérophilie. Paul dit « si tu veux être capable de soulever 40 kilos, commence à soulever 5 kilos. Et après, la semaine d'après, tu feras 7 kilos. Et après, 10 kilos. » Le truc, c'est que nous, parfois, on arrive, j'ai jamais mis les pieds à la salle, je vois une barre avec 200 kilos et j'y vais. Et j'arrive pas. Et je suis découragé. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec un chrétien comme moi qui n'arrive même pas à soulever une barre de 200 kilos ? Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est dans les défis du quotidien que tu te prépares à avoir tes grandes victoires. En fait, pendant que je priais pour ça, j'ai cette phrase qui est venue, si tu peux l'afficher, parce que elle parle beaucoup. Les défis du quotidien transforment le temps en croissance. Est-ce qu'on l'a, celle-là, voilà ça. Parce que là, vraiment, c'est dans un temps de prière que Dieu a mis ça dans mon cœur. Les défis du quotidien, c'est ça qui va transformer le temps en croissance réelle. Dans le quotidien, tu ne te sens pas changé. Hein, on ne se sent pas changé dans le quotidien. C'est comme quand tu grossis. Tu ne te sens pas grossir. Tu ne te sens pas grossir au jour le jour, on est d'accord. Tu ne dis pas, tiens, aujourd'hui, je me sens plus lourd. Mais par contre, au bout d'une semaine, tu vas sur la balance, tu dis, calme-toi. Les défis du quotidien, ça transforme le temps en croissance réelle. À chaque fois que tu vas décider de te mettre en mouvement avec Dieu, peut-être c'est un petit mouvement, Mais ce temps-là, ça devient de la vraie croissance. Ça se transforme en maturité. Ça se transforme en femme de Dieu, en homme de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va dire, go, on va abattre des géants ensemble. On va aller abattre quelques Goliaths parce qu'il y en a encore un peu trop autour de toi. Mais c'est dans le quotidien que Dieu te prépare. Et je termine par ceci, c'est le dernier point. C'est apprends à vivre constamment sous la grâce. Je l'ai un peu dit en début, c'est pour ça que je ne vais pas insister sur ce point. Mais apprends à vivre constamment sous la grâce. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as essayé de faire quelque chose pour Dieu que tu n'as pas réussi. Ce n'est pas possible. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il doit y avoir de la joie. Il doit y avoir une excitation. Et les amis, je vais faire quelque chose avec mon Père Céleste. Et c'est pas oh, mon Père Céleste va-t-il me corriger à la fin? C'est un enfant à qui tu dis on va faire quelque chose ensemble. Avec mon Père Céleste, on va aller sur le champ de bataille ensemble, on va construire quelque chose, on va reconstruire ma vie ensemble, on va reconstruire ma maison ensemble, on va reconstruire ma famille ensemble. Je vais faire quelque chose avec mon Père Céleste. Ce sera peut-être pas tout bien de mon point de vue, mais lui, il va faire les choses qu'il sait faire. Je dois apprendre à vivre constamment sous la grâce. Je ne peux pas être toujours dans cette propre justice. Je termine juste par ce verset parce qu'il est très important. Ce qui compte, ce n'est pas le succès, mais c'est le progrès. Vous êtes là ? Ce qui compte, ce n'est pas le succès, mais c'est le progrès. Aujourd'hui, il y a une chose qui rentre dans l'Église qui veut nous faire croire que Dieu vise que le succès. Dieu vise le succès, mais il vaut mieux ne pas avoir de succès et progresser plutôt que d'avoir juste du succès. Il y a un verset qui est très profond, qui nous parle du progrès. C'est Paul qui va dire aux Thessaloniciens, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il est question de marcher de gloire en gloire. La Bible dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. C'est dans les Proverbes. Pourquoi ? Parce que quand tu t'arrêtes de progresser, automatiquement tu régresses. Automatiquement, il y a quelque chose qui s'enlève. Dieu, vous savez, lorsque Dieu regarde nos vies, je veux tuer un peu des idoles là, cet après-midi. Il y a des personnes qui viennent me voir découragées, qui me disent « ma vie ne porte pas de fruits ». En ce moment, ma vie ne porte pas de fruits. C'est pas grave. Est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu progresses ? Il y a des gens qui disent « j'ai du mal à grandir dans la vie avec Dieu. Je fais un pas en avant, un pas en arrière. » Attends, c'est quoi exactement ? Ah non, en fait, c'est pas que tu fais un pas en avant, un pas en arrière, tu en fais deux en avant et un en arrière. Donc tu as grandi d'un pas, c'est bien. C'est bien. Qu'importe ce que l'ennemi veut me reprendre, ce qui compte, c'est que j'en garde un peu. Peut-être que tu n'es pas au niveau de tous les combats, de tous les tests. Peut-être que tu n'es pas le plus grand chrétien de l'Église. Mais ce qui compte, c'est que tu progresses. Et ça, c'est la vie chrétienne joyeuse. Je refuse au nom de Jésus, je le prie, je le déclare sur nous. Je refuse que mes efforts, cette recherche d'efforts, me sortent de la grâce. Tu peux faire des efforts dans une saison. D'accord ? Tu es dans une saison, tu fais des efforts et tu grandis. Tu développes ta vie spirituelle, tu fais des efforts, mais tes efforts ne peuvent pas changer les saisons. Je répète ça. Dans une saison, tu peux faire des efforts. Vous savez, et les amis, moi, quelqu'un m'a dit encore il n'y a pas longtemps, c'est un des trucs qu'on me dit le plus. Pasteur, je vous le disais tout à l'heure, j'arrive pas à prier. Première question, est-ce que tu mets ton réveil ? Ah non, mais j'attends que le Saint-Esprit me saisisse. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il m'a jamais saisi. C'est mon réveil qui me saisit le matin et qui me dit « va prier, va prier ». J'ai mon réveil tous les matins et le matin c'est « j'ai pas envie, mais je sais que je dois y aller ». Donc moi, ce n'est pas que du spontané, il faut qu'on apprenne à bâtir, à construire, à édifier, à élever cette vie chrétienne. Mais ce qui compte, c'est de la bâtir pierre après pierre, pierre après pierre. Tu n'es pas appelé à gagner ton ciel, tu ne peux pas changer ta saison. C'est Dieu qui change les saisons. Mais tu dois apprendre à vivre dans ta saison. C'est ça le processus. Il y a des saisons où on a beaucoup, il y a des saisons où on a peu. Paul dit, j'ai appris à me réjouir dans l'abondance et dans la pauvreté. Si je vous pose la question, quelle saison vous préférez ? Bon, ici, non, vous êtes trop humble. Mais tout le monde veut l'abondance. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas toujours des saisons d'abondance. Et quand on ne comprend pas cette dimension du temps et du processus, dans les saisons de disette, on va en vouloir à Dieu ou on va s'en vouloir à soi-même. Parce qu'il y a des saisons où tu n'es pas à la hauteur. Et je veux te le dire, je veux te le dire. La bonne volonté est fonction de ce qu'on a, pas de ce qu'on n'a pas. Vous savez quoi, même chacun d'entre nous, là, Dieu ne nous évalue pas tous pareil. Parce que tu es unique. Parce que j'ai pas la même histoire que toi. J'ai pas la même histoire que toi. J'ai pas les mêmes blessures que toi. J'ai pas les mêmes limites que toi. Et on se parle en français. Des fois, tu lis ta Bible, t'as du mal, et ton voisin, lui, il comprend tout du premier coup. Vous êtes là ? Et on n'est pas tous égaux, hein. C'est pas liberté, égalité, fraternité. On n'est pas tous égaux. La vérité, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la vie. Et Dieu nous évalue non pas en fonction de il n'a pas une règle comme ça. Il dit, si tu ne passes pas la règle, t'es disqualifié. Nous sommes tous évalués de manière individuelle. Je veux te dire que Dieu prend en compte ton histoire. Dieu prend en compte ton tempérament, ton caractère, tes blessures, tes facilités ou tes difficultés. Dieu prend en compte quand tu es malade. Et les amis, quand on est malade, la maladie est un adversaire assez grand pour qu'en plus, toi, tu te culpabilises du fait que tu n'arrives pas. Je vais te dire une chose. Quand tu pries, pas prévu de dire ça, mais je vous le dis. Quand tu pries, ta prière, Dieu la prend et il la met dans une coupe qui est devant son trône. Vous êtes là, c'est écrit dans Apocalypse, hein. Toutes les prières des saints sont recueillies par Dieu. Ça veut dire que ta prière, même quand tu as arrêté de prier, elle continue à prier devant Dieu. Je veux te le dire de la part du Seigneur, il y a des saisons où tu n'arrives pas à prier. Mais ta prière, elle prie encore. Ta prière, elle prie encore. Je veux même te dire de la part du Seigneur, le jour où tu ne seras plus sur cette terre, tes prières pour tes enfants, elles prieront encore. Tes prières pour tes petits-enfants, elles prieront encore. Parce que ça, c'est Dieu, ça. Les amis, ça, c'est Dieu. Des fois, on n'est pas à la hauteur. Je refuse cette marche chrétienne qui est dure. Mais moi, je me comprends pas moi-même. Vous êtes là, vous êtes humain, vous aussi. Il y a des jours, je me lève, j'ai pas envie. Bon. Si vous croyez que vous avez toujours envie, que vous vivez avec quelqu'un, demandez à celui qui vit avec vous. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on a des humeurs. Vous avez des humeurs, vous aussi ?
Ouais.
Ah ben voilà, amen. Et les humeurs, c'est fou, parce que c'est même pas de te dire, bien sûr que je lutte, et les amis, il faut lutter contre ça. Hein. Je suis pas en train de dire, ah ben tiens, un mauvais caractère, célèbre-le, fais-le subir à tout le monde. Je parle pas de ça. Mais je parle de cette vérité que parfois, il y a j'y arrive pas. Alors la bonne chose, c'est de dire, je me rappelle de sa grâce, je me rappelle qu'il marche avec moi, je me rappelle que le temps travaille en ma faveur, parce qu'il travaille dans ma vie, même les jours où j'y arrive pas, et on va y arriver. Voilà, c'est ça le message. C'est ça le message. Moi, allez, on va se lever ensemble, j'arrête là. J'aimerais qu'on célèbre la bonté de notre Dieu pour terminer. C'est pas vraiment un appel. Mais je prie pour qu'il y ait des forteresses de pensée qui soient abattues au travers de la parole de Dieu maintenant même. Je prie et je t'interpelle, ma sœur, mon frère, toi qui vis trop dans la culpabilité. Pendant que j'écrivais ce message, Dieu me disait une parole qu'il m'a dit il y a des années, c'est que des fois nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te condamne, mais c'est ta propre justice qui te condamne. Je veux te le dire de la part du Seigneur, Dieu travaille avec toi. Quand tu essayes de faire plus, Dieu dit, on va faire plus ensemble. Quand tu dis, allez, cette semaine, je vais plus prier. Dieu n'est pas en train de dire, enfin. Dieu dit, allez, on va le faire. On va le faire. La Bible dit que le Saint-Esprit, les amis, le Saint-Esprit est le consolateur. Il est avec moi. Le consolateur, littéralement, celui qui se tient à tes côtés. Le mot qui est utilisé, paraclète, c'est ça. C'est ça, c'est l'autre qui n'a plus de force, mais le Saint-Esprit te tient quand même. Moi, je ne sais pas vous, mais ceux qui... Moi, j'ai besoin d'être soutenu quand ça ne va pas. Et nous, on croit que le Saint-Esprit vient sur les super forts. Oh, j'ai prié 12 heures cette semaine, je suis en jeûne, c'est mon 7e jour, le Saint-Esprit est avec moi. C'est pas vrai, il est avec toi. Dieu dit qu'il efface les larmes de mes yeux. J'ai cherché dans ma vie, mais j'ai besoin qu'on me dessuie les larmes quand je pleure. Dieu est dans ton camp, mon frère, ma sœur. Dieu travaille avec toi. Le Seigneur est pour toi. Et je veux le dire au nom de Jésus. Je veux le dire à l'enfer. Je veux le dire aux puissances démoniaques qui se réjouissent trop de ma vie, qui n'avance pas parfois. Je veux dire que mon Dieu est dans mon camp. Il avance avec moi. Le temps travaille pour moi. Non, peut-être que je n'ai pas réussi aujourd'hui, mais on va refaire demain. On ira après-demain. Peut-être que je ne suis pas le plus grand des chrétiens, mais j'ai quand même été sauvé par le sang de l'agneau, j'ai quand même été établi sur le ferme rocher et Dieu travaille avec moi. Je suis gravé dans ses mains les jours où ça va, les jours où ça va pas. Je suis gravé dans ses mains quand je suis capable et quand je suis incapable. Au nom de Jésus.